Prier est au cœur de la vie du croyant. Quoi de plus naturel pour un croyant, pour un chrétien, que de parler avec Dieu, de lui ouvrir son cœur, de le remercier, de lui présenter ses besoins. Mais il y a des moments où la prière se fait plus intense. Quand on fait face à l'épreuve, à la souffrance, à l'injustice, quand on est malade et que les forces semblent nous abandonner, alors la prière devient un cri du cœur, un appel à l'aide, une main tendue vers le ciel. Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir dans cette nouvelle édition d'Il est écrit, une émission consacrée aujourd'hui à un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, la maladie et la prière pour les malades. Dans la Bible, il y a beaucoup de récits de guérison, en particulier dans le Nouveau Testament, dans le récit de la vie du Christ et dans celle des apôtres. Mais il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit quand il s'agit pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, de prier pour des malades. Dieu peut-il, veut-il intervenir encore à notre époque pour guérir des malades? Ou bien est-ce que c'était une grâce particulière réservée à l'époque du Christ et de ses collaborateurs? Quelle est la place de la prière pour un malade par rapport aux traitements médicaux ou aux soins naturels? Un malade doit-il prier lui-même pour sa guérison ou quelqu'un d'autre doit-il prier en sa faveur? Est-ce qu'il y a des gestes associés à cette prière? Devons-nous nous attendre à une guérison ou est-ce seulement une exception rare? Les questions sont nombreuses et les réponses ne sont pas toujours évidentes. Je me garderai bien de prétendre vous donner aujourd'hui des réponses définitives et complètes sur ce sujet. Mais il y a quand même dans le Nouveau Testament une démarche claire qui nous est proposée. Une invitation à la prière en faveur de ceux qui sont atteints par la maladie, et des promesses que vous et moi sommes invités à saisir avec confiance. Le texte qui va nous servir de fil conducteur pour cette émission se trouve dans l'épître de l'apôtre Jacques. Je vais lire avec vous dans l'épître de Jacques au chapitre 5, les versets 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. L'apôtre Jacques ne précise pas à quel type de maladie il fait allusion, mais il ne s'agit évidemment pas d'un rhume ou d'une petite foulure. C'est une maladie qui nous laisse sans force, selon le mot utilisé dans le texte original grec, une maladie sérieuse qui peut avoir des conséquences importantes, voire mortelles. La démarche de prière qui est proposée ici est donc à la mesure de la gravité de la maladie qui affecte le croyant. Celui qui est malade est donc invité à appeler les anciens de l'Église. Les anciens, ce sont les leaders de l'Église locale à laquelle appartient le malade ou avec qui il est en contact. Ici, les anciens vont représenter en quelque sorte la communauté spirituelle tout entière qui va s'unir dans la prière pour celui qui souffre. Il m'est arrivé régulièrement de diriger une prière de ce type pour un malade et de me rendre au domicile de ce malade avec quelques dirigeants de l'Église. Et souvent, j'ai demandé à tous les membres de l'Église qui le pouvaient de se réunir pour être en prière en même temps que nous. Parce que les anciens qui se rendent au chevet du malade représentent vraiment la solidarité de foi et d'amour qui doit régner dans la communauté chrétienne. Et il est bien que toute l'Église soit en prière, d'un seul cœur et d'une seule âme. L'Église est donc en prière, et les anciens sont au chevet du malade qui réclame l'intervention divine. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, le texte dit que ceux-ci, les anciens, prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Il y a un geste qui est associé à la prière, l'onction d'huile, ou dit en langage plus moderne, on va appliquer de l'huile, on va verser de l'huile sur la tête du malade. Un geste qui peut nous sembler un peu étrange à nous qui vivons au XXIe siècle. Peut-être que pour certains, ce geste rappelle l'extrême onction que les prêtres catholiques faisaient et font encore pour les malades en péril de mort. Mais dans le contexte biblique, on versait de l'huile sur la tête des prêtres, des rois, ou même dans certains cas des prophètes, des personnes qui étaient consacrées au service de Dieu et du peuple. Par cette onction, non seulement on mettait à part ces hommes pour un ministère spécifique, on les consacrait, mais on demandait la bénédiction abondante de Dieu, l'action puissante de son esprit en leur faveur. L'huile répandue sur la tête était le symbole de cette bénédiction divine recherchée et reçue par la foi. Écoutez comment l'auteur du psaume 133 chantait cette bénédiction évoquée par l'huile d'onction sur la tête du grand prêtre, ici le grand prêtre Aaron. Psaume 133, les versets 1 et 2. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Prier pour un malade en l'oignant d'huile, c'est donc demander à Dieu que ses plus riches bénédictions se répandent sur lui. Il faut préciser ici que l'huile n'a aucune vertu thérapeutique et encore moins magique. Il n'est pas question dans le texte de l'Épître de Jacques d'une huile sacrée ou d'une formule élaborée. C'est un peu comme le baptême. On n'a pas besoin d'eau bénite pour baptiser. On peut prendre n'importe quelle eau dans laquelle on puisse plonger le nouveau disciple du Christ. L'eau est simplement un symbole puissant du fait qu'on est spirituellement lavé, renouvelé par Dieu. Mais de la même manière, l'huile répandue sur la tête du malade est un symbole, un signe qui évoque la bonté, la bénédiction de Dieu répandue sur son enfant souffrant. Je relis maintenant le texte de l'Épître de Jacques au chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. J'aime la précision en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Prier et oindre d'huile au nom du Seigneur, c'est se souvenir d'abord que toute grâce qui pourra être accordée aux malades est un don du ciel. Et que c'est seulement par l'œuvre de Jésus-Christ, par sa vie, sa mort pour nous, que nous pouvons obtenir ces bénédictions. En d'autres mots, l'intervention réclamée est un don de Dieu et pas un dû. Notre plus profond désir est qu'il soit honoré par ce qui va arriver. Et le verset suivant exprime d'ailleurs la promesse qui est faite aux malades et à ceux qui prient. Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi, dit le texte. J'ai souvent tremblé en lisant cette expression. La prière de la foi. Mon Dieu, avons-nous une foi solide, une confiance inébranlable en toi pour oser nous approcher de toi et prier avec foi pour ce malade. Il est certain qu'avant de procéder à cette prière, il faut que les intervenants s'examinent, recherchent Dieu, qui lui demande de les remplir justement de foi et du Saint-Esprit. Et si nous sentons que notre foi est encore trop petite, eh bien n'hésitons pas à faire la même démarche que le père de l'enfant tourmenté par un démon, qui demandait à Jésus d'intervenir pour son fils. On trouve ce récit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 22 et 23. « Si tu peux quelque chose, dit le Père à Jésus, viens à notre secours. aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Dieu ne repousse jamais celui ou celle qui s'approche de lui en désirant de tout son cœur croire et faire confiance, mais qui sent sa faiblesse, son manque de foi. Et Dieu a le pouvoir de fortifier la foi de tous ceux qui le lui demandent. Voilà dans quel état d'esprit le malade et ceux qui prient pour lui doivent se trouver. Voilà ce qu'est la prière de la foi dont il est dit qu'elle sauvera le malade. D'ailleurs, dans ce verbe « sauver », il y a une petite ambiguïté qui est très certainement voulue. Le verbe « sozo » en grec a d'abord et avant tout un sens très physique. Ça veut dire « sauver d'un danger, tirer d'un péril, garder vivant », comme dans le cas d'une personne qui tombe à l'eau ou qui est dans un bâtiment en feu et qui est sauvée par l'intervention des secours. Et dans le Nouveau Testament, ce verbe signifie régulièrement « guérir, garder en vie ». Alors, dans le contexte de la prière pour les malades, la prière de la foi sauvera le malade peut donc être compris comme la prière de la foi guérira le malade. Mais dans le Nouveau Testament, ce verbe « sozo » a le plus souvent un sens différent, un sens spirituel. Être sauvé, c'est d'abord et avant tout être sauvé du mal et de la mort définitive. Être sauvé, c'est être pardonné par Dieu, avoir une place réservée dans le royaume qui vient. Être sauvé, c'est avoir l'assurance de la vie éternelle, comme l'exprime l'Évangile selon Marc au chapitre 16 et au verset 16. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et dans Matthieu 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il faut donc comprendre avant tout la promesse faite par l'apôtre Jacques, la prière de la foi sauvera le malade, comme une promesse de salut, de vie éternelle, grâce au Christ qui pardonne et qui donne la vie. C'est ce qui est confirmé par la fin de la phrase qui dit « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Voilà donc quelqu'un qui est malade, ou très malade, sans force, et qui sent la vie le quitter. Dans un geste de foi et d'abandon entre les mains de Dieu, il fait venir les anciens de l'Église pour prier pour lui. Il a confessé ses fautes à son Père Céleste. Il a réglé les différends éventuels qu'il pourrait avoir. Il a réparé ses torts. Et maintenant, il demande la bénédiction divine à travers la prière et l'onction d'huile. Cette bénédiction, c'est la grâce d'une guérison physique, si telle est la volonté de Dieu. Car même dans les cas les plus extrêmes, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais la bénédiction demandée est toujours reçue. C'est d'abord et avant tout la grâce d'être sauvé, purifié de tout mal et prêt pour la vie éternelle. C'est dans ce même double sens qu'il faut comprendre le texte qui dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera ». Le verbe grec « egeiro », utilisé par l'apôtre Jacques, a un sens très courant, très physique, relatif à la vie quotidienne. Il peut signifier, suivant le contexte, se lever ou faire lever ou réveiller quelqu'un. Dans ce sens premier, la promesse qui est faite ici, donc le Seigneur le relèvera, évoque un Dieu qui, en rendant la santé à la personne gravement malade, la prend par la main, lui permet de se lever et de reprendre sa vie normale. Mais le verbe grec « egeiro » a un autre sens, dérivé du premier, et encore plus fréquent dans le Nouveau Testament. C'est l'un des mots utilisés pour parler de la résurrection. Il signifie « ressusciter, revenir à la vie après être passé par la mort ». C'est ce verbe qui est utilisé pour raconter l'histoire de la fille de Jaïrus que Jésus a ramenée à la vie. L'apôtre Jean utilise aussi ce mot pour parler de Lazare, ressuscité par Jésus. C'est encore ce mot que Jésus emploie pour annoncer sa mort et sa résurrection, et plus tard, les évangélistes et les apôtres appliquent ce mot au Christ ressuscité. C'est enfin un mot qui sert à annoncer la grande résurrection finale, comme par exemple dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Je lis dans un extrait donc de ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Dans tout ce passage puissant qui évoque la résurrection lors du retour du Christ en gloire, le verbe « ressusciter » est la traduction du mot grec « egeiro », le même que celui qu'utilise l'apôtre Jacques pour parler du malade pour qui on prie et que le Seigneur relèvera. Il y a donc une double signification à la promesse faite par la Bible en ce qui concerne la prière pour les malades. Quand un malade fait appel à l'Église à travers les anciens pour qu'on prie pour lui, il vit d'abord une expérience spirituelle. Les anciens ne sont pas des guérisseurs qui, par une passe magnétique ou une potion magique, vont rendre la santé au malade. Ce sont des hommes de Dieu qui vont s'unir au malade dans la prière et demander pour lui une bénédiction spéciale et d'abord spirituelle. La promesse la plus fondamentale qui est faite dans le texte de l'Épître de Jacques, c'est que si cette démarche émane d'un cœur sincère, cette personne recevra l'assurance pleine et entière d'être pardonnée, en paix avec Dieu, sauvée et prête pour le jour de la résurrection. C'est le plus important et c'est la seule promesse qui a une portée éternelle. La seconde promesse, c'est que si c'est sa volonté, Dieu pourra ajouter à l'exaucement fondamental, à la bénédiction éternelle, une autre bénédiction plus immédiate, à savoir la guérison physique et la restauration de la santé. Mais tous les malades ne sont pas guéris. Lire le texte de l'Épître de Jacques uniquement dans la perspective de la guérison physique, ce serait affirmer que tous les croyants malades qui font appel à la prière des anciens seront systématiquement guéris. Mais cette conception se heurte non seulement à la réalité de l'expérience chrétienne, mais aussi au récit de la Bible. La Bible nous raconte les merveilles d'un Dieu qui a accompli de nombreuses guérisons pour soutenir la prédication de l'Évangile. Mais elle ne nous cache pas que le prophète Élisée, par exemple, qui a pourtant été l'instrument de la résurrection d'un jeune homme, est mort d'une maladie. Le Nouveau Testament rapporte que l'apôtre Paul, qui a opéré de nombreux miracles de guérison, a prié avec instance pour être délivré de ce qu'il appelle une écharde dans la chair, probablement une maladie des yeux, et a reçu comme réponse divine « Ma grâce te suffit ». Sans parler des maladies de Trophime, d'Épaphrodite ou de Timothée, tous des collaborateurs de l'apôtre Paul, qui eux non plus n'ont pas été guéris miraculeusement. Si tous les chrétiens guérissaient systématiquement en réponse à la prière, ça se saurait. Et beaucoup voudraient sans doute être chrétiens pour retrouver la santé à coup sûr. Dieu ne serait alors qu'un distributeur de bénédictions qu'on recherche par intérêt immédiat. Pas quelqu'un avec qui on entretient une relation spirituelle et profonde. D'ailleurs, en poussant le raisonnement jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'absurde, les chrétiens ne pourraient pas mourir, puisqu'ils seraient toujours guéris de leurs maladies et de leurs infirmités. Penser que le texte de l'Épître de Jacques annonce une guérison systématique est en fait extrêmement dangereux. Dangereux parce que cette vision des choses efface la réalité de notre condition humaine. Depuis que le mal est entré dans ce monde, notre condition normale comprend la souffrance, la maladie et la mort. Évidemment, il y a aussi toutes les belles choses de la vie, ce que j'appelle parfois les restes de l'Éden. L'amour, la joie, les moments de santé, mais avec toujours, malgré tout, la maladie et la mort. En fait, ce qui est une anomalie, c'est le miracle de guérison. Toute guérison miraculeuse, et il y en a, est une sorte d'anomalie de la grâce divine, une intrusion du royaume de Dieu dans notre monde de péché, comme un flash de lumière dans un monde de ténèbres pour nous annoncer que le royaume de la lumière va bientôt être instauré et qu'il faut nous y préparer. Croire à la guérison systématique en réponse à la prière serait aussi dangereux parce que si la guérison ne vient pas, on va soit perdre la foi en Dieu, soit culpabiliser le malade ou ceux qui ont prié pour lui en les accusant de ne pas avoir eu la foi suffisante pour obtenir la guérison. J'ai connu plusieurs personnes qui ont porté ce poids de culpabilité inutile pendant des années. Alors, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire aux miracles, ni prier avec foi pour des guérisons de malades. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il est vivant, qu'il est puissant. Et je n'oublie pas la promesse faite par Jésus après sa résurrection dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16. Marc chapitre 16, les versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Oui, Dieu fait encore des miracles pour manifester sa présence, sa bienveillance et sa puissance à ceux qui lui font confiance et qui prient. Je l'ai vu, je peux l'attester, et dans de prochaines émissions, j'ai le projet de partager avec vous des témoignages à ce sujet. Mais le plus important, c'est de croire que Dieu entend la prière de ses enfants et y répond qu'il y ait ou non miracle de guérison. Il y répond d'abord en donnant la paix du cœur, la joie du salut, l'assurance de la résurrection, de la vie éternelle. Ceux qui ont cette assurance sont prêts à vivre ou à s'endormir dans les bras de leur Père céleste. Et je veux terminer en partageant avec vous une citation extraite du très beau livre « Le ministère de la guérison » écrit par Ellen White. Elle dit ceci. Après avoir prié pour la guérison d'un malade, ne perdons pas, quoi qu'il en résulte, notre foi en Dieu. Nous pouvons avoir confiance dans sa sagesse et en son amour. Si nous ne sommes pas exaucés comme nous l'aimerions, résignons-nous en nous soumettant à la volonté du Père. Mais si notre prière est exaucée, qu'aucun de nous n'ait un cœur ingrat, n'oublions pas que celui qui a été l'objet d'une telle grâce doit de nouveau la vie à son Créateur. Père Céleste, merci d'être le Dieu de la vie, celui qui nous donne la vie et qui nous veut en santé. Aide-nous à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour préserver cette santé. S'il nous arrive d'être malades, que nous puissions vraiment nous confier en toi, et je te prie spécialement, Père, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être malades, qu'ils puissent s'approcher de toi dans la prière, trouver la paix, et si tu le désires, Seigneur, la guérison. Nous t'en prions en ton nom. Amen.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Ésaïe, chapitre 51, verset 15.
Hello France!
Oui, bonjour Amy!
Alors, je sais que le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te tient à cœur, mm-hmm. qui te concerne.
Oui, effectivement.
Et aussi l'offre de la semaine, d'une manière particulière.
Oui, en fait, ben, effectivement, la semaine prochaine, on va en parler un petit peu plus. J'ai vécu quelque chose de particulier et ce qu'il y a dans l'offre cette semaine, c'est quelque chose que toi-même, tu m'avais recommandé dans le passé de lire. Le titre, c'est rien de moins que « Prière pour les malades et principes de santé » pour 5 $ seulement. En fait, la première partie, c'est ce que tu as un petit peu évoqué dans l'émission aujourd'hui, l'importance de faire un petit peu une introspection quand on demande à Dieu d'intervenir. Alors, demande de pardon avec Dieu, demande de pardon avec les gens autour de nous. C'est vraiment une belle lecture qui nous aide un petit peu, moi j'appelle ça faire le ménage, pour enlever tout ce qui pourrait entraver notre relation avec Dieu.
Et se préparer pour un acte aussi important que la prière
des
fonctions d'huile.
C'est ça. Mm-hmm. Donc, la première partie, ça concerne ce sujet-là. Et les trois autres petits chapitres, le premier, c'est l'emploi des remèdes, mais on parle de remèdes naturels. On parle de la guérison mentale et on parle aussi du contact avec la nature. Pourquoi? Parce que souvent, on peut se rendre malade de par notre style de vie.
J'ai pas eu le temps d'en parler pendant l'émission, mais c'est vrai ça.
Hein, oui.
En fait, Dieu, pour répondre à notre prière, doit souvent nous amener à faire des changements.
Oui, des fois, on a notre part à faire. Puis, quand on lit ces petits chapitres-là, ça nous met à cœur de « oui, c'est vrai, je dois appliquer ça dans ma vie, je dois appliquer ceci, cela ». Donc, c'est une exhortation à faire ce qui est bien, à faire notre part, puis bien sûr, de demander à Dieu de faire ce que nous, on ne peut pas faire.
De faire confiance pour le reste. Mm-hmm. Donc, dans ce petit livret, plusieurs aspects vraiment centrés sur la prière pour les malades et sur les conditions pour que Dieu puisse pleinement agir.
Oui, très important. Et ce qu'on peut faire, nous, pour aider notre corps, évidemment.
Voilà.
Donc, 5 $, prière pour les malades et principes de santé.
Voilà. Puis c'est promis, la semaine prochaine, tu vas nous en dire un peu plus
sur
ton expérience.
Effectivement, on va avoir une vraie histoire de ce qui est arrivé dans ma vie. Ouais.
Merci beaucoup, France.
Ça fait plaisir.
Alors, si vous voulez obtenir ce petit livret intitulé « Prière pour les malades et principes de santé », bien, vous pouvez nous écrire, nous téléphoner. Voici nos coordonnées.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à la prière pour les malades, avec cette fois des témoignages concrets, des expériences vécues. Soyez des nôtres. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».